A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du jeudi 17 novembre. Il est un peu moins de 6h du matin, 5h59 très exactement. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne nuit. Eh bien, les marchés dorment. Même sur le Nikkei cette nuit, j'avais mis une alerte, si vous faites partie d'IVT, vous le savez. Sous les 27881, pourquoi? Parce qu'on a un échec, vous regarderez le Nikkei en daily. Enfin, c'est pas qu'on a un échec, c'est qu'on a un test pour le moment de la borne haute du range dans lequel il évolue depuis le début de l'année 2022. Vous le connaissez, je vous le partage depuis des semaines, depuis des mois, depuis toute l'année 2022. On est dans un gros range entre 25008 en bas et 28005 en haut. Et ben, on est proche de la borne haute. Donc, de la même manière que ben, finalement l'ensemble des indices, pour le moment, effectivement, ça piétine. Il y a eu le carburant de l'inflation aux États-Unis la semaine dernière. Et puis, depuis, il se passe pas grand chose. Donc voilà, faut essayer de composer avec ça, composer avec le rien, notamment lorsqu'on fait de l'intra-swing, bien entendu, je parle pas de l'intra-day pur, notamment lorsqu'on trade le DAX sur des unités temps vraiment très courtes en 5 minutes. Je parle vraiment sur des unités temps horaires, déjà, pour commencer, il ne se passe absolument rien. Je suis short sur le CAC, ça ne bouge pas, je perdais 30 points, je gagnais 30 points, j'en gagne et j'en perds 0 à la clôture hier soir. On est à 7 points de mon point d'entrée depuis vendredi. Voilà. Donc, est-ce que je dois couper ma position par impatience? Alors déjà, il y a impatience dedans. Non. Est-ce que je dois couper ma position parce que le marché me donne tort? Non. Est-ce que je dois couper ma position parce que j'ai des éléments contraires? Non. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Est-ce que je dois renforcer ma position parce que le marché me dit « Ah, là, mon Xav, il se passe des choses sur le marché, vas-y, renforce. » Absolument pas non plus. Pourquoi est-ce que le marché ne bouge pas? Parce qu'en fait, il n'y a pas de news d'un côté, de l'autre. Alors, vous avez entendu parler notamment des missiles qui ont atterri en Pologne. Visiblement, c'est l'Ukraine. C'est une erreur de… voilà. Donc les marchés avaient été un peu secoués, mais vraiment rapidement pour terminer la séance dans le vert, alors qu'on a eu justement ce genre de news. Ça montre quand même globalement que les marchés sont résilients. Et pourtant, vous voyez, moi je suis short, donc il faut avoir aussi l'honnêteté, l'humilité, la clairvoyance et la lucidité de voir qu'effectivement, bah, ça bouge pas dans un sens, dans l'autre. Donc le Nikkei cette nuit, bah, j'avais mis une alerte sur 27880, peut-être que ça va sonner aujourd'hui d'ailleurs. Vous regarderez, si vous faites partie d'IVT notamment, je vous ai partagé les graphiques, notamment hier soir, pour le fameux trade de la nuit qui ne s'est pas du coup déclenché. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a après globalement? On a un taux à 10 ans bah, qui ne bouge pas, on a 3,72, voire qui baisse un peu. On a un dollar américain qui ne baisse pas, qui ne monte pas. On est toujours à 13,060. Je vous avais dit hier, j'ai mis une alerte à 13,080. Donc sur le dollar index, hein, face à un panier de devises, si on passe là-dessus, ça montre que bah, le dollar a fait peut-être une mèche basse. Et donc, peut-être qu'il est en train de se ressaisir un peu, peut-être qu'on a fait un point bas, en tout cas à court terme. Et donc, à ce moment-là, se dire, OK, donc il y a une reprise du dollar, on reprend un peu des valeurs refuge, entre guillemets. Donc, ça voudrait dire qu'on aura une petite consolidation sur l'ensemble des indices, donc des actifs risqués, malgré le fait qu'on ait maintenant, finalement, un taux à 10 ans aux États-Unis, bah, finalement, qui se stabilise, voire qui baisse un peu. Donc, voilà, c'est très, très calme. Quand c'est calme, alors… ça me faisait marrer, mais c'est exactement ça, c'est que faut pas paniquer quand ça baisse fort, faut pas euphoriser et pas paniquer à la hausse en se disant oh là là, ça y est, ça explose, bam bam bam. Et à l'inverse, faut pas paniquer quand il se passe rien, c'est comme ça, c'est la vie. Et surtout, enfin, faut pas s'impatienter, faut pas tourner en rond en fait. Et faut profiter justement de cette période-là, comme je le dis souvent. J'essaye de le faire au maximum pendant cette période-là. Alors, on se fixe des alertes de partout, on refait bien évidemment des tours sur les graphes, machin, etc. On se remet en question, on met en place des plans, on fait surtout en fait ce dont on n'a pas le temps de faire d'habitude. Et justement, ça évite de tourner tout dans tous les sens alors qu'en fait, il se passe rien. Voilà. Donc, ça sert à rien d'essayer de se dire oui, non, mais peut-être que, en fait, machin. Non, ça sert à rien d'anticiper. Il se passe rien, il se passe rien. C'est tout. Bon, bah, on verra bien ce que ferait le marché plus tard. Donc, j'ai toujours mon alerte sur le CAC sous les 6580. Si on passe là en dessous, bah, vous voyez en daily, hein, je l'ai posté aussi sur Twitter. 6600, 6700, c'est la borne haute. 5800, c'est la borne basse du range depuis mars, donc depuis plus de 6 mois. On est plus proche de la borne haute, donc pour moi en termes de timing c'est vendeur, oui, mais le marché ne me donne pas raison, effectivement. D'un point de vue macro, on a eu le PPI qui était ressorti, alors c'était pas hier, c'était avant-hier, qui était meilleur que prévu. Ça c'est dans la lignée du CPI de l'inflation qui était ressorti meilleur que prévu, donc finalement c'est pas vraiment une bonne surprise. Ouais, c'est pas vraiment une surprise. On a eu hier les ventes au détail aux États-Unis, encore solides, largement meilleures que prévu. Les ventes au détail core, donc si on exclut le secteur automobile, on est à plus 1,3 de ventes au détail pour cent, plus 1,3% contre plus 0,5% attendu. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en chiffres macroéconomiques? On n'a rien. On a l'indice Philly Fed. Si l'indice Philly Fed à 14h30, franchement, moi j'y c'est pas que j'y crois pas trop, c'est que vous savez, moi, les sondages, je pense que le marché en fait s'en fout un peu maintenant. C'est un sondage réalisé auprès de 250 manufacturiers aux États-Unis qui vont donner leur sentiment sur économique, machin, etc. Voilà, le sentiment, les marchés aujourd'hui s'en foutent un peu, ils veulent du concret, du sonnant, des trébuchants. Donc cette nuit, 1h30, on a eu au Canada l'emploi. Au Canada, pardon, en Australie. En Australie, c'était meilleur que prévu. Voilà, deux fois plus de création d'emplois que prévu. Un taux de chômage à 3,4% contre 3,5% attendu. Donc bonne nouvelle, les économies restent solides hein, malgré toutes ces remontées des taux finalement. Hein, vous voyez que c'est quand même assez exceptionnel. Alors est-ce que ça va durer ou pas? Ça, j'en sais rien. Il y en a beaucoup qui prédisent le pire, hein, même les grandes banques, hein, même américaines. Hein, moi, j'ai lu leur. J'en ai parlé hier vite fait, mais j'ai lu leur rapport de 100 pages, hein, quasiment. C'est l'équivalent de mon carnet de bord en plus gros. Et encore, il y a moins de texte. Mais du coup, dedans, ouais, ils sont quand même beaucoup plus pessimistes que le marché. Bon, voilà. Après, c'est un avis, en fait, si vous voulez. C'est un avis. En se disant, bah voilà, moi la courbe du chômage elle va faire ça, la courbe de ça elle va faire ça. Ouais, moi je ne suis pas trop dans cette optique-là, j'en sais rien si ça va être bon ou pas bon. Peut-être que l'économie en fait va rester solide et peut-être que bah, l'inflation va diminuer progressivement, pas aussi rapidement peut-être qu'on l'attendait et qu'on le souhaiterait, mais ouais, ça va se faire peut-être avec le temps, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que les banques centrales finalement, et comme l'a dit la Fed, ne va pas en fait trop remonter trop rapidement et encore, alors elle l'a déjà fait, mais va pas continuer parce qu'elle veut justement laisser diriger un petit peu tout ça, alors que ça soit l'économie, que ça soit l'inflation, la hausse des prix ou que ce soit même d'ailleurs les marchés. Donc je pense que c'est, à mon sens, en tout cas pour le moment, c'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie parce que je rappelle que les marchés, notamment le Dow Jones, n'est plus qu'à 8% de ses records historiques. Pareil pour le CAC. C'est moins le cas pour le SP500 et le Nasdaq parce qu'eux sont beaucoup plus entachés par cette remontée des taux. Donc voilà. On avait eu hier également les inflations au Royaume-Uni. Alors, Royaume-Uni, c'est pas bon. On avait 10,7% d'inflation attendue. On sort à 11,1% d'inflation. C'est énorme. Donc là, par contre, au Royaume-Uni, là, par contre, ça douille. Et à l'inverse, on a l'inflation au Canada. Bon, on attendait plus 0,8% sur le mois, hein, donc le Royaume-Uni c'était sur l'année, hein, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est pas sur le mois. Le Canada, là maintenant, c'est sur le mois. On attendait donc le mois précédent, le mois d'octobre, plus 0,8%, et finalement il ressort plus 0,7%. Donc là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, donc les marchés finalement se disent bah, pause de manière générale dans les perspectives, dans les prévisions, dans les tout ce que vous voulez, etc., etc. Ok, voilà globalement pour la situation. De manière plus précise, bien évidemment, on verra ça après tout au long de la journée, mais bon, tout simplement pour vous dire, globalement, sur les marchés, il ne se passe pas grand-chose. De la même manière, en fait, sur les cryptos, on a eu cette forte baisse post-FTX. Alors, on est encore dedans. Il y a deux choses. C'est que d'un côté, effectivement, ça remet encore une fois beaucoup en question la confiance qu'on a envers ce marché qui est censé être transparent, mieux que les banques, à mort les banques, c'est mieux les cryptos parce que comme ça on a la liberté. Bah, le problème, c'est que quand on va trop loin comme ça, bon, bah, merci les gars, c'était pas trop ça le projet, quoi. C'est pas moi-je, quoi. C'est pas moi-je, je vais essayer de renflouer, d'après ce que j'ai compris aussi, de ce que j'ai vu. Je sais pas si c'est vrai ou pas, on va parler au conditionnel. Mais en gros, FTX, c'était à renflouer une société de trading pour laquelle il était actionnaire, qui se faisait en fait démonter, qui avait perdu de l'argent, et donc du coup, utiliser les fonds des clients de FTX pour renflouer sa société de trading. Et en fait, bah, à un moment donné, on a vu le poteau rose, et puis en fait, tout a sauté, parce que bah, à un moment donné, quand tu es surexposé sur ta propre crypto finalement détenue par toi, bah, forcément, elle a moins de valeur que si elle est détenue par tout le monde. C'est un peu le même principe, en fait, si vous voulez, que je vous ai parlé, je crois, hier, notamment du yen, qui est détenu justement, où la dette en fait du Japon est détenue par quasiment tous les habitants, tous les Japonais. Du coup, ça apporte quand même de la confiance parce que du coup, t'es pas seul. Et en fait, sur FTX, alors je suis pas en train de faire la comparaison entre FTX et l'yen, attention, hein, c'est juste un exemple. Et en fait, le FTX était, voilà, détenu en fait par eux-mêmes, et donc forcément, bah, pose la question à un moment donné aussi de la je vais pas dire de la crédibilité, mais de la pertinence en fait de la valeur que ça peut avoir si c'est détenu par toi-même, tu vois. La valeur en fait des choses dépend de la valeur qu'on lui donne. C'est ce qu'on appelle un peu le prix un peu psychologique. Mais si c'est toi qui détient 90% ou 81% finalement de ce qu'il y a sur le marché, bah forcément ça devient plus compliqué en fait de la valoriser, puisqu'en fait il n'y a pas grand monde qu'on veut. Bon, bref, on va pas refaire l'histoire, mais tout ça pour dire que bon, forcément cet état de confiance va mettre du temps à être mis en question, ça c'est une certitude. Combien de temps, ça par contre j'en sais rien. Et la troisième chose, c'est la deuxième chose importante, c'est de tant qu'on n'a pas, pour le moment on ne repasse pas au moins 50% de cette panique qu'on a connue la semaine dernière. Je prends le Bitcoin par exemple, on est parti de 20 500 $. Ok, on était à 20 500 $ avant cette histoire. On est tombé en deux jours à 15 000, allez, je vais arrondir, hein, 15 500. D'accord, on a perdu 1 000 $, 5 000 $ d'un coup en deux jours. Donc tant qu'on ne retrace pas la moitié, au minimum, donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 18 400 $, tant qu'on ne repasse pas là-dessus, on est toujours sous cette pression baissière et il n'y a absolument aucune remise en question. Si on repasse au-dessus, il commence à y avoir des signaux positifs. Je dis bien, il commence à y avoir des signaux positifs. Ce n'est pas le cas. Ethereum, même chose, la 50% de cette panique, de ces deux bougies baissières daily, donc de cette impulsion baissière, 1 400 $. Tant qu'on ne repasse pas là-dessus, on est à 1 200 ce matin, tant qu'on ne repasse pas là-dessus, il n'y a aucun voyant qui est ouvert. Voilà. Et enfin, ce qu'on peut noter aussi, c'est que, alors c'est la même chose sur l'ensemble des cryptos, hein, c'est que, qu'est-ce que je voulais dire ? Alors après, je voulais dire qu'il y a des fortes et des faibles. Oui, après, bah, on arrive quand même sur des niveaux majeurs. Alors, est-ce que ça vaut quelque chose ? Ça vaut pas quelque chose ? Pour le moment, ça vaut quelque chose. Combien de temps ça va tenir ? J'en sais rien. Vous regardez la capitalisation totale, on est revenu finalement à peine sur les plus bas de cet été. Donc, franchement, pour un scandale aussi majeur que ça, parce que c'est quand même le numéro 2 mondial des plateformes d'échange sur les cryptos, ça remet énormément de choses en doute. Beaucoup le comparent à Lehman Brothers, etc. Je trouve que c'est pas... Voilà. Alors vous allez me dire, oui, on revient de haut. Ouais, ok, d'accord. Mais pour un scandale aussi énorme, je trouve que le marché tient quand même bien. On tient des gros niveaux. C'est peut-être un avis subjectif, hein. C'est peut-être une analyse subjective. Mais je trouve, par rapport au niveau qu'on est en train de tester à peine cet été, pour un scandale aussi majeur, moi je trouve qu'on devrait être largement en dessous, quoi. Voilà. Donc je trouve que ça tient quand même bien. Et enfin, justement, ça tient encore mieux sur les fortes par rapport aux faibles. Vous prenez l'Ethereum. Bah, cet été, hein, je sais pas si vous vous souvenez ou pas, hein, mais en juin, en juillet, on était à 900, excusez-moi du terme, mais on était à 900 balles, hein, sur l'Ether. On est à 1200 après ce truc, après le scandale FTX. Donc, moi, je trouve qu'il y a des fortes qui tiennent bien. Ce n'est pas le cas du Bitcoin, 10% en dessous. Ce n'est pas le cas de Solana, 30% sous ses plus bas de cet été. Mais c'est le cas d'autres. Prenez BNB, on était à 200$. On est à 269. Vous prenez Atom, on était quasiment à 5$. Allez, on était à 6$, un peu en dessous. On est à 10. On ne va pas toutes les refaire, mais c'est aussi pour montrer que on peut voir aussi que ce qu'on a envie de voir. Ça marche aussi dans la vie d'ailleurs. On peut voir la vie du bon côté, du mauvais côté. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est à nous de voir. Voilà. C'est un moment. Un jour, j'ai montré un verre justement à moitié rempli à ma fille. Je parlais de ça. Je me dis, alors, il est à moitié plein ou à moitié vide? Elle me dit, ah, tu m'as appris à voir à moitié plein. Voilà. Mais en fait, c'est pas pour se cacher finalement de la situation, parce que je vous dis, la situation, elle va pas s'oublier du jour au lendemain. Hein. C'est pas, non, mais en fait, les cryptos, c'est génial. Ben non, il faut une acceptation de manière globale. C'est pas parce que vous y croyez que tout le monde va y croire. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être des erreurs qu'on va corriger. Il va peut-être y avoir des autorégulations dans l'écosystème. Et je pense qu'il faut vraiment mettre ça en place, en train de se dire, il faut qu'il y ait un broker, à un moment donné, qui dise, moi, voilà. Voilà mon idée. Je vais publier, pas mes comptes, mais tout ce que vous voulez, en fait, le maximum de ce que je peux et de ce que je veux, pour justement montrer à tout le monde bah, quels sont finalement les différents critères. Et moi, je pense vraiment, vraiment que c'est possible. Et pourtant, je suis pas acteur, si vous voulez, dans les blockchains, dans les plateformes, etc. Là, on parle vraiment que des plateformes, hein. On parle même pas des blockchains. Bien évidemment, ce qui s'est passé sur FTX, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement des cryptos et le fonctionnement des blockchains. Donc déjà, c'est deux choses différentes. Mais dans cet esprit, justement, en disant ce scandale-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça sert à rien de revenir en arrière en train de dire « oui, on aurait pu voir et tout, il y en a beaucoup qui débattent là-dessus ». Alors, c'est important pour dire justement quelles étaient les erreurs. On met le doigt sur les erreurs de ce qui s'est passé et ensuite, une fois qu'on a eu les erreurs, une fois qu'on a identifié ces erreurs-là, c'est « on fait quoi ?». Et moi, je suis sûr qu'il faudrait, bordel, il faudrait qu'il y en ait un qui arrive en disant « alors peut-être qu'ils le font déjà, j'en sais rien, vous me direz, mais ça me passionnerait de le savoir ». En train de me dire, voilà, il y a eu ça, 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 ça et ça. Ben moi, je vais publier ça, 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 plus ça, 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 ça et ça. Voilà. Toutes les problématiques que vous devez vous poser, posez-les-moi. Et moi, j'essaye d'y répondre. Et je vous dis, ben, ça, c'est carré, ça, c'est carré, ça, c'est carré, ça, c'est carré. Et une fois qu'on aura, excusez-moi du terme, mais ce putain de confiance entre les acteurs, les investisseurs, ceux qui y croient pas en disant... Nous, maintenant, effectivement, on a fait une grosse connerie. L'écosystème crypto, on a fait une grosse connerie. On n'a pas checké. On n'a pas checké ci, on n'a pas checké ça. Et puis, parce que tout le monde arrive après coup en disant « Ah ouais, mais c'était normal parce que machin. » Bah ouais, mais pourquoi il n'y a pas eu de scandale qui a éclaté avant alors si on le savait depuis des mois ? Parce que bah, y en a qui en ont parlé, mais personne n'y a cru. Donc, je pense qu'il faut avoir aussi cette humilité pour cet écosystème au-delà de ça, crypto, d'avoir l'humilité aussi à un moment donné de se dire tout n'est pas blanc, quoi. Voilà. Tout n'est pas beau, tout n'est pas mieux que les marchés traditionnels, tout n'est pas mieux que les banques, tout n'est pas mieux que la liberté qu'on apporte, oulala, la décentralisation, tout ça. Voilà. Bon, bref, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, même si je m'étends déjà quand même pas mal, mais je trouve que c'est important. Donc, d'un côté, voilà, pour synthétiser, moi je trouve que bon, on ne prend pas si cher que ça, pas partout en tout cas, pas partout. De manière générale, le marché est revenu sur les plus bas de cet été. Oui, il y en a qui se font démonter plus que d'autres. Voilà. Et le but, bah, c'est de se dire, ah, ok, bah, je vais décaler le curseur. Alors, il y en a qui se disent, bah, je vais acheter du Solana pas cher. Bon, bah ouais, mais elle fait pas partie des plus fortes. Moi, je suis plus partisan, vous le savez, de se dire, ok, je vais plutôt privilégier les fortes parce que les fortes douillent moins. Elles ont moins douillé, elles ont douillé pareil peut-être. Mais en tout cas, elles ont mieux rebondi que les autres pendant la période de été il y a deux semaines. Elles ont mieux bondi, on a fait x2, x3. Hein. Attention, hein, QNT et tout, elle a fait x3. Hein. Donc, elle est toujours à x2. Donc, je suis désolé, mais c'est pas la fin du monde, hein, encore. Donc, ça veut dire qu'il y a de la marge pour que ça baisse, oui, aussi. Ça veut dire que si le marché a envie de douiller et de se faire poutrer et nous poutrer, bah oui, il y a de la place, ça c'est sûr et certain. Mais je trouve que c'est pas non plus... je veux dire, si vraiment c'était fini, toutes les cryptos seraient en dessous de leur plus bas de cet été, mais de loin, quoi. De loin. Et on sait vraiment, on serait vraiment beaucoup plus bas. Voilà. Donc je trouve qu'il y a quand même une certaine résilience. Et voilà. Donc le but du jeu, bah, c'est d'attendre justement que le marché se réveille un peu. Une fois que le marché se réveille, on aura des premiers signaux positifs. Une fois qu'on aura des signaux positifs, on y retournera. Mais voilà. Moi, je suis pas. Je reste dans mon. Dans le même schéma, il y a une semaine, j'avais fait un gros notif sur EVT, c'était mercredi soir, en disant, moi, je suis désolé, mais pour moi, c'est trop tard pour paniquer. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il faut recharger à fond maintenant, c'est le point bas? Ça, malheureusement, j'aimerais bien le savoir, c'est pas le cas. Oui, il y a des opportunités à un peu moins cher. Est-ce qu'on peut renforcer un peu? Oui, c'est juste une logique de prix, en fait, tout simplement, parce que le marché a perdu 30%. Après, est-ce qu'on peut en perdre encore 20? Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, c'est juste une logique de prix, de zone. Est-ce que le marché nous donne des signaux positifs? Non. Voilà ce que je veux dire pour le marché crypto, encore une fois, ce matin. Alors, je sais que j'en parle beaucoup, mais je trouve que c'est important. C'est pas d'apporter de la confiance. Je ne suis pas là pour dire « Ouais, ça va bien se passer ». Pas du tout. Je donne simplement mon avis par rapport à ce que je vois aussi. Alors, mon avis, il peut être subjectif, peut être objectif, j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être que vous avez des éléments complémentaires à ce que vous entendez à droite et à gauche. Donc, globalement, sur le marché, vous l'avez compris, c'est assez calme. Tradit, ouais, je vais continuer à mettre des alertes de partout. C'est calme sur le dollar, c'est calme sur le taux à 10 ans, c'est calme sur les indices. Est-ce que je vais continuer à le charter, shorter à fond? Non, parce que pour le moment, le marché ne me donne pas raison. J'ai une position sur le CAC. J'avais une position il y a deux jours sur le Dow Jones qui a donné 100 points, qui a même donné 400 points avant que je me fasse stopper win. J'ai gagné que 100 points, pardon, sur la journée justement sur le Dow Jones parce que bah, derrière, finalement, heureusement, il y a eu un démenti justement que ce n'était pas des missiles russes qui arrivaient en Pologne, parce que là, c'est pas la même histoire. Hein. La Pologne fait quand même partie de l'OTAN. Donc voilà, ça a été rapidement démenti. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais bon, il y a quand même eu deux morts au passage. Bon, tant mieux, ça augmente pas. Il n'y a pas une escalade un peu partout. Bref. Donc pour le moment, je mets des alertes en dessous, et puis si le marché me donne raison, bah, j'y retournerai, voilà, tout simplement. J'en profite, ça fait 20 minutes, puisque sinon, je ne vais pas avancer. J'ai eu des questions. Alors, premier, Thomas, je vais relire ton message. Tu m'as envoyé le 30 octobre. Je sais, on est le 17 novembre, mais vous voyez que la preuve que je note, qui m'a dit « Ouais, j'aimerais bien faire l'interview, etc. » Je ne sais pas si tu as été contacté ou pas. N'hésite pas à me renvoyer un petit message sur Twitter. Je relis ton message au début en disant « J'ai commencé à investir Coinbase en 2017, un peu par hasard. » Un peu par bouche à oreille, l'envie d'investir à long terme. Ok ? Je te propose, Thomas, si tu m'écoutes, de m'envoyer un message et on te contactera pour justement faire l'interview. Ensuite, il y a Leben qui me dit j'ai du mal à suivre à droite, à gauche, j'ai pas vraiment le temps. Quand je vous écoute, il me dit tout a l'air simple et une fois seul devant mon écran, je fais des trades perdants, je lâche rien. J'ai pas du temps à passer devant le PC, etc., etc. Alors, quelles sont les vidéos les plus importantes pour bien débuter? Alors, déjà, t'as la partie first. Je sais pas si tu l'as ou pas. Si tel est le cas, tu me contactes. Si tel n'est pas le cas, tu me contactes et puis on verra pour que je te la mette en place. La formation first où justement je pose les bases un peu de tout ce qu'on raconte. Voilà. Je vais pas tout exposer, comment faire, machin, etc. Si on se sent perdu, parce que je le fais quasiment, je vais pas dire tous les jours, mais. Voilà. C'est juste en fait prendre le temps de ne pas prendre de trade, de se faire confiance, de viser processus, de ne pas mettre la maison, etc. Donc il y a tellement d'éléments à voir que je ne peux pas le faire dans le morning boot en 5 minutes, encore même pas en 10. Donc je te propose qu'on en reparle, voire même d'ailleurs qu'on fasse éventuellement une interview là-dessus où je réponds en fait à vos questions pendant une demi-heure, vous voyez. Ça peut être bien aussi de le faire à l'inverse parce que il y a quelques jours justement, je prépare les interviews pour le samedi en avance, hein, vous le savez. Et en fait. Il y a quelqu'un, vous allez voir, ça ne sera pas samedi, ça sera le samedi d'après, c'est déjà programmé, justement, qui m'a posé les questions en fait pendant cette interview et du coup, j'y réponds. Et du coup, ça peut être intéressant aussi de faire l'inverse, c'est-à-dire moi, je vous pose des questions et bien évidemment dans le cadre d'interview et tout, et après, on peut faire l'inverse en disant, bah tiens, je te pose des questions et du coup, tu essayes d'y répondre et du coup, ça permet justement de refaire un truc, alors peut-être pas le samedi, mais peut-être on fait un truc le samedi matin, un truc le samedi après-midi ou alors le dimanche même. Même s'il y a le débrief hebdo le dimanche, on peut programmer aussi des trucs pour le dimanche après-midi, par exemple pour le dimanche soir, en disant, bah voilà, je réponds à vos questions comme celle de Ben. Donc Ben, Tu me recontactes, on essaye de voir ça et peut-être éventuellement j'essaye de te répondre en fait différentes questions que tu me poses. Le but c'est de proposer en fait des solutions. D'accord? Ok, le Ben. Ensuite, on a Anso qui me dit, et puis après j'arrêterai, et puis après j'enchaînerai pour peut-être demain. Anso, tu me dis que, alors tu fais plus partie du VT, etc. Comment vous achetez les indices? Alors ça peut être effectivement par CFD, ça peut être par ETF, Turbo, non. Ça peut être par futur, etc. Ça peut être par les varants, les machins. Je conseille de faire simple. Voilà. Alors, futur, si tu as un compte au moins supérieur à 50 000 euros, en tout cas investir sur les indices. Sinon, en dessous, c'est CFD. C'est une question d'exposition de manière générale. Est-ce que tu dis justement acheter des ETF, etc. Est-ce que tu peux me partager tes tickers? Alors, je ne peux pas te partager mes tickers. Mais parce que des tickers, tu en as des milliers. Donc, il n'y a pas un ticker, machin. Mais moi, ce que je te conseille, effectivement, ça peut être une bonne idée des ETF si tu fais ça plutôt sur du moyen, sur du long terme. Alors, les ETF, hein, vous savez, donc c'est des fonds, en fait, avec des paniers d'actions, etc., etc. Vous avez des frais à l'entrée, à la sortie, des frais de gestion, des frais de machin, etc. Alors pourquoi pas? Mais je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir des frais, hein, puisque du coup c'est sécurisé entre guillemets, vous occupez de rien, et puis vous avez toutes les informations et ça peut être cool. Donc oui, effectivement des ETF. Après, moi je peux pas te dire s'il faut que tu achètes une zone géo, un secteur particulier en France, hein, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, le secteur santé en France ou en Europe, ou s'il faut que tu achètes le secteur techno aux États-Unis, quoi. Et dans le secteur techno, c'est plutôt le secteur, je ne sais pas. Le secteur, enfin je dis n'importe quoi, le secteur internet. Aux États-Unis. Donc, en fait, si tu veux, tu as tout, tu peux tout avoir. Ça, déjà, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux acheter? Déjà, je pense qu'il faut commencer par là. Et puis ensuite, une fois que tu as répondu à cette question, si tu dis je sais pas, bah cherche, y a personne qui va te donner la solution, hein. Donc, tu cherches déjà. Voilà. Si tu veux un peu de tout, bah après, tu as des ETF aussi monde qui regroupent un peu tout et qui permettent d'avoir. Alors, le SP500, c'est l'une des références. Hein, voilà, ça peut être une idée. De dire, ouais, mais les SP500, il y a un tiers de techno. Est-ce que tu veux vraiment un tiers de techno dedans? Donc, je pense qu'il faut vraiment aller au bout des choses. Pose-toi ces questions. Je te propose de me recontacter et de me dire, tiens, voilà, j'ai cherché, j'ai creusé, machin, etc. Si c'est acheter, pour se dire, le marché monte, je veux acheter parce que le marché monte, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, tu vas te poser des questions tous les jours et en fait, les questions, tu vas te les poser au fur et à mesure et tu vas dire, je suis pas sûr. Quand ça va baisser, tu vas dire, je suis pas sûr. Quand ça va monter, tu vas dire, est-ce qu'il faut que je vende? J'en sais rien. Donc, il faut d'abord ta conviction, il faut d'abord ton travail, il faut ta recherche et après, on trouvera des solutions avec des ETF qui ont associé. Je te propose de le faire dans ce sens-là. Ok, Anso? Merci pour ton message d'ailleurs. Tu disais à la fin, voilà. Merci pour tes dernières lignes. Je ne le lirai pas puisque je sais que sinon, je vais me faire tacler en disant. Ouais, les remerciements, les machins, les trucs et tout, tu saoules avec tes trucs là. Donc je le garde pour moi. Merci Anso pour ton message. Qu'est-ce qu'il y a? Alors il y avait quelqu'un qui posait la question aussi sur Twitch mardi, justement. Moi je comprends pas le CAC, t'achètes, tu renforces à fond le CAC quand moi je prends des objectifs. On verra ça plus en détail. Peut-être d'ailleurs au terme d'une interview éventuellement que j'ai posé la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, éventuellement une idée. Merci également pour la fin de ton message. Et je te propose qu'on voit ça un peu plus tard. Ok? Ensuite, Bastien également qui pose la question. Alors je vais répondre très simplement. Quelle est ta stratégie long terme? Alors justement, qui repose la question. ETF monde, panier d'action. Combien est-ce que tu mets des stop loss, est-ce que tu utilises des moyennes mobiles, est-ce que tu fais du DCA, machin, etc. Alors, Bastien, effectivement, oui, j'ai des actions à très 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 long terme, d'accord? Donc plus de 20, plus de 30 ans, voilà, j'imagine que c'est plus de 30 ans. c'est du long terme. Est-ce que tu fais du DCA? Pas forcément, ça dépend lesquels. Et sur du long terme, généralement, je fais des stratégies très simples, en fait. Je connais des actions, alors par cœur, ouais, on va dire par cœur, plus ou moins. En tout cas, je sais, j'ai cette vision, en fait, comment dire, cette analyse long terme qui est assez simple. C'est quand c'est en bas, j'achète, et quand c'est en haut, j'allège, voire je vends. Alors, je vends pas tout, j'ai toujours une exposition, même quand mon action fait x2, x3, j'ai toujours mon exposition, j'allège considérablement, mais je sais que sur ces niveaux-là, c'est des niveaux vraiment extrêmes. Voilà. Et en fait, je travaille uniquement les niveaux extrêmes sur du long terme. Alors, je ne sais pas si dans 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, je vais attendre mon point bas à nouveau, mais je vais attendre en fait ces niveaux-là. Et en fait, je me fais par palier. Alors, ce n'est pas du DCA où tous les mois j'en mets, c'est du niveau par palier. Donc, par exemple, quand ça baisse à, je dis n'importe quoi, je prends une action qui vaut 10 euros, d'accord, à peu près, en moyenne, qui vaut 10 euros en moyenne depuis les 20 dernières années. Bah, quand on arrive proche de 30, bah, je sais que c'est un niveau extrême haut, c'est la borne haute plus ou moins de mon range. Bah, j'allège considérablement et quand on arrive en dessous vers, je dis n'importe quoi, 2-3 euros en bas, parce que je sais que c'est le niveau extrême, bah, je ne vais pas attendre forcément 2-3 euros en bas. C'est que je vais rentrer, une fois qu'elle est à 10, en moyenne, je sais que quand elle arrive proche de 7, bah, il faut que je prenne un tiers de ma position. Quand elle arrive proche de 4, je vais reprendre un tiers. Et quand elle arrive proche de 2-3, bah, je sais que c'est un niveau extrême et je vais être exposé à 100% de ce que je voulais sur cette action-là. Voilà. Et puis après, bah, quand ça remonte à 10, eh ben, je laisse faire. Quand ça monte à 12, 13, 14, 15, bah, là, je commence à alléger une partie. Si ça arrive à 20, eh ben, tant mieux, j'allège la moitié ou les trois quarts. Et puis après, si ça va à 30 ou à 40 ou à 50, ça s'envole, eh ben, je resterai exposé finalement sur un quart de l'exposition globale. Voilà tout simplement une stratégie en fait long terme, très basique. Alors après, il faut être sur des actions qui des vraies entreprises en fait, si vous voulez, enfin des vraies entreprises, pardon, des entreprises finalement solides qui voilà, qui sont pas en mode en fonction de machin, etc., etc. Voilà, des boîtes assez stables. Il n'y a pas des scandales. Oui, ça va être exposé en fonction de certains trucs à droite et à gauche, bien entendu, mais globalement, si vous voulez, des grosses actions qui évoluent dans des gros ranges, des trucs pas risqués, voilà. C'est pas des trucs qui vont faire x15. Alors je suis sûr que ça va pas faire x15, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Par contre, je sais que ça va pas à zéro. Voilà. Parce que si ça va à zéro, c'est qu'il y a un gros problème. Voilà tout simplement. J'espère avoir répondu à vos questions. Ah bon, 32 minutes j'ai fait du coup. Voilà quelques questions. J'ai encore d'autres questions, bien évidemment. J'y répondrai probablement demain, notamment si le marché fait rien. Un grand merci à vous. Très belle journée. Je vous dis à plus. Ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.